Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et un bon Tech & Co, c'est forcément un bon débrief de l'actu tech pour débuter. Et pendant une heure en plus. C'est quand même la classe. Cédric Ingrand est avec nous. Salut Cédric.
Salut François.
Ravi de te retrouver, ancien journaliste bien sûr, directeur général de Heavyweight Studio dorénavant. À tes côtés c'est Hugo Weber. Salut Hugo.
Salut François.
Ravi de te retrouver aussi Hugo, directeur des affaires publiques chez notre pépite française Miracle. Tout va bien chez Miracle ?
Parfaitement.
Les indicateurs sont au vert ?
Toujours au vert.
On voit qu'ils ont de l'argent chez Miracle. Et... casquette Miracle, parapluie Miracle. Hugo est venu avec quoi d'autre Miracle ?
Un carnet, c'est tout.
Et peut-être même des trucs cachés, on n'ira pas plus loin. Christophe Honnête, salut Christophe.
Bonsoir François.
Senior Advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft Asie du Sud et France. Voilà, Christophe Honnête que vous connaissez bien, qui vient régulièrement dans Tech & Co pour débriefer l'actu. Plein de sujets passionnants. On va revenir sur ce patient Neuralink qui, il y a encore une semaine, arrivait à jouer aux échecs simplement par la pensée. Maintenant, il joue à Mario Kart, le gars. Quand même, c'est impressionnant. Hein. On a une petite vidéo à vous montrer et puis on débattra là aussi sur les progrès en fait de cette technologie. On évoquera un petit peu aussi le DMA et les GAFAM, vous le savez, avec cette enquête menée par la Commission européenne, notamment du côté d'Apple. Tiens, Apple qui a annoncé aussi sa WWDC. Ce sera le 10 juin prochain. On commentera aussi tout ça tout à l'heure. Et on reviendra, je le disais aussi, sur les 50 ans de la carte à puce. Cette carte à puce que l'on doit à un certain Roland Moreno, qui nous a quitté il y a une douzaine d'années et qui est un génie finalement parce que ben voilà, il y a 50 ans il a inventé cette petite puce qui était intégrée dans des cartes et qui aujourd'hui est partout dans le monde, il y en a des milliards et des milliards, c'est incroyable, c'est un succès phénoménal, 50 ans cette année. Mais pour débuter donc, OpenAI qui a présenté une nouvelle vidéo avec de nouveaux effets d'intelligence artificielle générative en termes de vidéo. Parce que c'est vraiment, là, le nouveau dada d'OpenAI, c'est Sora, ça s'appelle comme ça. Imaginez, aujourd'hui, vous tapez, je sais pas quoi, ce que vous voulez, sur l'interface de...
François Sorel court sur une plage.
Oui, voilà, ça, François Sorel court sur une plage avec un casque de moto, par exemple, pourquoi pas. Et là, d'un coup, paf, vous avez François Sorel qui court sur la plage avec un casque de moto. Si on peut lui enlever quelques kilos aussi à François Sorel, ça serait pas mal. Merci beaucoup, l'IA. Non, je plaisante. Ce qui veut dire par là que OpenAI avance très très vite sur ce sujet de l'intelligence artificielle générative avec une qualité, c'est ça qui est complètement bluffant, la qualité des images qu'on arrive à avoir. On se casse le nez, Cédric.
C'est bluffant. C'est monstrueux.
Deuxième salle de vidéo.
Ouais. Mais il faut imaginer, il faut se souvenir de ce qu'on a. Il y a un an, on produisait des photos de gens avec 7 doigts, voilà. Oui. Et aujourd'hui, on fait
et des longs
ça.
Doigts en plus.
Oui, enfin, c'était souvent voilà.
C'était pas terrible.
Et aujourd'hui, on fait ça. On fait des choses qui sont de la cinématographie, enfin, qui peuvent servir à plein de gens. Alors, c'est pas pour autant encore des choses vraiment faciles à utiliser. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas accessible ni à vous ni à moi.
Non.
Et alors, justement, ils ont mis Sora dans les mains d'une demi-douzaine d'artistes, vidéastes, etc. Justement pour produire ces nouvelles vidéos. Et alors c'est intéressant parce que ça arrive au moment où d'autres disent attendez, mais vous êtes en train de faire, enfin vous êtes en train de piller en gros toutes les vidéos qui sont sur internet pour instruire votre modèle
génératif. Pour nourrir ce modèle.
Oui, parce qu'évidemment, mais c'est incroyable de voir la précision de ce que ça arrive à sortir, parce que entre une image et de la vidéo il y a une grosse différence, c'est pas juste 25 images par seconde, c'est aussi la gestion du mouvement, c'est comprendre le volume des choses, enfin on est face à une espèce de vraie course aux armements totale. Et pour l'instant, clairement, ils tiennent tête.
Avec le photoréalisme, C'est-à-dire que là, on n'est plus dans des jeux vidéo ou des démos vidéo de PlayStation 5. Là, on a l'impression, parfois, et franchement, si vous êtes avec nous en audio, bien sûr, on pourrait vous les décrire pendant des heures, mais l'idée, c'est vraiment aller sur le compte Twitter d'OpenAI et aller voir ces vidéos. Alors, regardez le replay de cette émission. On vous en montre quelques-unes. C'est impressionnant. Là, vous voyez, vous avez un mix entre, je sais pas moi, un oiseau,
une autruche et une girafe.
Une autruche et une girafe. C'est impressionnant. Le petit cochon qui vole, c'est quand même incroyable. Est-ce que ça serait pas finalement, Christophe, l'une des innovations les plus bluffantes d'OpenAI, encore plus forte que ChatGPT?
ça peut se débattre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est très, très, très impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un certain nombre de questions. La question de propriété intellectuelle à laquelle Cédric faisait référence.
On va y revenir dans un instant. On a une petite, petit son à vous diffuser là-dessus.
Voilà. Et aussi d'autres questions par rapport à Hollywood, mais peut-être tu voulais passer cette vidéo maintenant ou
Bah, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous connaissez Mira Murati? C'est la CTO d'OpenAI. Ouais. N'importe qui, hein, la CTO d'OpenAI. Elle répondait aux questions d'une journaliste du Wall Street Journal il y a quelques jours de ça, je crois que c'était la semaine dernière. Et la journaliste lui demande si d'où viennent en fait les droits de toutes ces images. Où va se nourrir en fait OpenAI pour créer Sora? Écoutez sa réponse.
Quelle data vous utilisez pour entraîner Sora?
Nous utilisons des données accessibles au public et des données sous licence.
Comme des vidéos sur YouTube?
Je ne suis pas sûre.
Videos from Facebook, Instagram.
Vous savez, si elles sont accessibles au public, cela peut devenir des data, mais je ne suis vraiment pas sûre.
Et par rapport à Shutterstock, je crois savoir que vous avez un deal avec eux.
Je ne vais pas rentrer dans les détails des data que nous utilisons, mais ce sont des données accessibles au public et sous licence.
Non, elle ne va pas rentrer dans des détails parce qu'elle ne sait pas. Donc quand on ne sait pas, on ne rentre pas dans les détails.
Clairement, ce n'est pas son sujet préféré.
Ouais, moment gênant hein, quand même, hein, parce que c'est la CTO d'OpenAI. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas... Enfin, c'est quand même la CTO.
Ouais,
et,
mais après,
et la fille, elle ne sait pas d'où viennent les images qui ont fabriqué toutes ces vidéos, quoi.
Les images qui ont inspiré.
En tout cas, elles sont nourries.
On parle de copyright, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, le copyright. Moi, je peux aller regarder toutes les œuvres de Picasso et essayer de m'en inspirer pour faire de la peinture. Ça donnera un résultat que t'as pas envie de voir.
J'aurais hâte de voir ça, mais, hein, sincèrement.
Oui, évidemment. Et pourtant, les descendants de Picasso pourront pas m'accuser pour m'être inspiré de l'œuvre. Picasso lui-même s'inspirait des grands maîtres. L'inspiration est pas quelque chose qui est couvert par le copyright. C'est la copie qui est couverte par le copyright. On le voit dans tout ce qui tient justement déjà aux images, et puis à l'inspiration tirée des textes sur le web, etc. etc. Donc c'est dur de le traiter par l'angle du copyright, mais c'est vrai que bon, je pense qu'elle aurait dû être mieux entraînée à répondre à cette question.
Mais je suis d'accord, mais elle pourrait savoir au moins si c'est YouTube qui leur sert de pompe à comment dirais-je, à inspiration, en quelque sorte. Hein. Là, elle ne le sait même pas. Après, tu as raison sur le copyright. Hein. Il y a peut-être un pixel d'une vidéo dans...
C'est pas un pixel, c'est la capacité du logiciel à comprendre ce que c'est, à comprendre comment marche un chat. C'est aussi ça qui est confondant. C'est-à-dire que, comme toi, moi j'ai fait 30 ans de journalisme.
On va commencer à donner des royalties à tous les chats.
J'ai 30 ans de journalisme technologique à essayer d'expliquer des choses compliquées aux gens. Et là, j'arrive face à une chose que je n'arrive pas à expliquer. Je peux expliquer ChatGPT. Sora, Midjourney, la génération d'images, c'est quand même très très fort en termes de technique. Là, l'explication derrière, elle est vraiment compliquée.
Hugo ?
Moi, quand je regarde ce qui s'est passé sur ChatGPT, sur les questions de copyright, j'ai aussi beaucoup vu une course aux éditeurs de presse à aller faire des deals avec OpenAI. On l'a vu avec Axel Springer, qui était le premier Allemand à aller faire ce deal-là. On l'a vu avec Le Monde, qui l'a également fait très récemment. Et en fait, la question que ça va poser pour Sora, c'est de savoir quels vont être finalement les éditeurs de films qui vont être les premiers à aller faire des deals. Et je pense que ça va être un peu la suite logique de ce qui va se passer. Parce qu'au final, ce que nous montre Sora dans les petites vidéos qu'on a vues à l'instant, c'est un phénomène qui va être extrêmement compliqué à gérer pour énormément de cols blancs. T'as mis, comme moi, un bleu de travail aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment peur d'une chose, c'est la vulnérabilité des cols blancs par rapport à cette nouvelle technologie. Et en fait, on se rend compte que sur toutes les professions intellectuelles, des juristes, en passant par les créatifs en agence de publicité, jusqu'aux gens qui font des médias ou de la télé ou des films, il y a une vraie vulnérabilité par rapport à ce sujet-là. Et finalement, est-ce que c'est pas un moyen... en tout cas, ces deals qui pourraient être passés entre des éditeurs de films ou des maisons d'édition avec des modèles, des foundational models, de trouver des nouvelles moyens de monétiser finalement leur capital qui existait déjà.
C'est compliqué parce que le moteur peut s'inspirer de plein de choses sur la cinématographie, sur comment on cadre, à quoi ça ressemble, c'est quoi un mouvement de caméra, etc. Ils peuvent aussi prendre des précautions pour que, par exemple, on puisse pas refaire un film avec Marilyn, enfin, ou avec une actrice vivante surtout, ce qui serait encore plus problématique. S'ils le font, ils n'auront pas de problème de copyright. Personne ne va dire tout ça semble inspiré du travail de tel chef opérateur ou de tel metteur en scène. Ça, c'est pas la question.
Mais on l'a déjà vu avec Edith Piaf. On en avait parlé ici. Le fait de recréer la voix d'Edith Piaf, de la faire reparler sur des choses qu'elle n'a pas dites. Enfin, ça pose des vraies questions philosophiques sur faire reparler des morts. Enfin, moi, c'est un truc qui profondément m'effraie totalement.
Oui, oui. Sauf si on a l'autorisation, par exemple, de la descendance d'Edith Piaf, par exemple. Ça, c'est... Et là, même si on n'est pas d'accord intellectuellement avec tout ça, bah, ils sont dans les clous, finalement, au niveau de la loi. C'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que, donc évidemment, ces vidéos sont impressionnantes. On se dit que, évidemment, Hollywood va s'emparer de tout ça quand ça sera disponible. Parce que, imaginez des effets spéciaux. Parce que là, ce qu'on voit, c'est des effets spéciaux. Hein. On se dit que, bah voilà, le prochain Harry Potter avec des monstres, bah, il pourrait être fait, au lieu de passer des centaines d'heures dans des, chez Industrial Light and Magic, les studios de George Lucas ou je sais pas où, James Cameron, il appuie sur deux boutons, il arrive à voir ça. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Parce que derrière tout ça, il y a le prompt. Et le prompt, pour avoir un cochon qui vole avec une super lumière qui va être une lumière de matin, avec une ombre qui va être un petit peu dessinée, mais pas trop, avec un aspect, on va dire, enfin voilà, il y a plein de choses. Tout ça, ça se prompte. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était des spécialistes d'effets spéciaux qui allaient devoir prompter tout ça pour avoir un résultat qui soit au top, en fait. Et encore une fois, c'est la clé, c'est le prompt. Christophe.
Peut-être, en tout cas, le prompt est très important. Il peut être décisif dans la capacité à faire quelque chose de remarquable. Mais moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir quelle va être la réaction d'Hollywood, un peu comme avec les éditeurs de presse. La question, c'est un peu le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que face à cette technologie qui peut embarquer et finalement complètement disrupter l'industrie et questionner la pertinence d'un certain nombre de studios, il y a la tentation de dire bah, je vais être le premier à le faire parce que je vais avoir des économies monstrueuses. Alors les économies par exemple sur la réalisation d'effets spéciaux, mais aussi sur la réalisation d'un pilote avant de lancer un film. Le pilote, ça coûte très cher. Là, pour une fraction du coût, on va accepter qu'il y ait un pilote qui soit fait avec de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a Tyler Perry, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Tyler Perry, qui est un gros producteur, réalisateur, qui avait un projet de développement de studio à Atlanta, un projet de 800 millions de dollars, qui a dit ouh. Oui, je vais mettre en suspens.
Bon, oui. C'est peut-être bonjour, vous sortez comment sera, les gars.
C'est peut-être une façon de se positionner différent, mais on voit bien que là, les studios vont être face à une attitude. Est-ce que je prends le truc en premier, j'en fais un avantage concurrentiel au risque finalement d'entraîner toute l'industrie, ou est-ce qu'on continue à quelque part à former un pack de résistance à ces outils-là.
D'accord. Voilà.
Ouais, et ça, c'est une vraie. Qui va finir comme question. Un village gaulois quand même dans l'ensemble. Ouais. C'est un peu la question.
Après les scénaristes, après les acteurs, est-ce que ce seront les créateurs d'effets spéciaux qui pourraient faire grève?
Absolument. Imagine où on sera dans un an ou deux ans. Ouais. En fait, c'est ça le truc.
C'est ça.
Il y a déjà des outils. J'ai vu une plateforme qui s'appelle LTX. Parce que le problème de ces petits clips, c'est que tu génères ton cochon volant. Ok, super. Et pour le clip suivant, tu dis, bah maintenant, si j'étais en train d'en faire un film, par exemple, ou un spot de pub, j'aimerais bien avoir le même, dans le même décor, le même cochon volant, mais qui vole vers moi, par exemple. Mmh. Et ça, c'est compliqué à prompter. Et il y a une plateforme qui s'appelle LTX qui fait exactement ça. Et surtout qui te permet de revenir sur une scène et de la modifier.
Sur
et de faire ton montage, pardon.
Sur base OpenAI
J'ai pas encore compris la base, c'est pas encore ouvert à tous, mais surtout qui te permet de faire une modification en disant finalement, le cochon, il faudrait qu'il soit rouge et pas rose, et il te le change dans tous tes plans. Enfin, non, c'est terrifiant. Christophe a raison sur une chose, pour prototyper, c'est extraordinaire.
Oui, bien sûr. Oui.
Pour jeter des idées sur le papier pour des gens qui, comme moi et peut-être comme toi, n'ont aucune,
je te
confirme, capacité artistique.
Ouais, ouais.
C'est quand même extraordinaire. Tout à coup, tu vas de l'idée à l'image, et c'est d'une puissance absolument. Enfin, moi, c'est pas tant la sophistication de la technologie qui me troue, disons-le. C'est la vitesse, la vitesse à laquelle ça accélère.
C'est
ça,
aussi,
on a rarement vu ça.
Alors, pour peut-être clore le débat sur ce sujet avec une note un petit peu plus positive, ça va être un outil formidable de création.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant, même avec les plus grands effets spéciaux. Mm-hmm. C'est ça qui est dingue. Mm-hmm. Donc vivement que ça arrive. On n'a pas de date, hein. Ça devrait être cette année, je pense.
Je crois qu'ils ont dit après les élections américaines.
Alors ils attendent évidemment que l'ouragan...
La prudence.
Je pense que ça montre aussi qu'ils sont conscients des dérives que ça peut amener.
Et puis ils ont peut-être pas envie qu'on fasse l'amalgame.
Non. Oui.
Bon. Après, je pense qu'ils ont besoin de booster un peu leurs relations publiques et leur compréhension des affaires publiques. Visiblement, je parle à la spécialiste ici. Parce qu'en fait, OpenAI, c'est une start-up, mais je reconnais des travers de start-up qui parfois lancent des produits qui peuvent avoir un impact économique très fort, un impact sociétal, et qui se retrouvent face à des questions absolument pas préparées, alors qu'elles étaient quand même prévisibles.
Tu te souviens, au moment où Microsoft allait peut-être racheter OpenAI, et où je te disais, non, ils n'ont pas intérêt à le faire. OpenAI a intérêt, même dans le cadre d'un partenariat très lourd, de rester une société à part, parce qu'il y a des choses qu'OpenAI peut faire, mais que Microsoft ne ferait jamais, donc on ne prendrait jamais le risque.
On a fini là-dessus. Bon, en tous les cas, je vous invite à regarder ces vidéos entre le cochon volant et le chat serpent. C'est quand même assez impressionnant tout ça et d'un degré de réalisme qu'on n'a jamais vu. Après, les questions qu'on pourrait se poser, c'est combien de temps faut-il pour générer une vidéo comme ça? Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça prend...
Aujourd'hui, ce sont des vidéos de 1 à 2 minutes qui sont générées.
Oui, c'est plutôt là-dessus. C'est une poignée de secondes. Hein, c'est ça.
Dans l'actualité aussi, Neuralink, alors on passe maintenant du côté du clan Elon Musk, avec, vous le savez, des progrès phénoménaux qui sont faits avec cet implant, qui est, rappelons-le, inséré dans le cerveau. Là, on n'est pas, on va dire, sur la boîte crânienne, on est vraiment à l'intérieur. C'est une puce qui elle-même est branchée à des électrodes qui doivent être donc insérées dans le cerveau à des endroits bien précis. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, si vous êtes avec nous à la télé pour ça, c'est-à-dire que ce patient qui est tétraplégique, qui est devenu une star en fait sur les réseaux sociaux, parce que évidemment c'est le premier, c'est le patient zéro de Neuralink. Finalement, il y a une semaine, on le découvrait officiellement en train de jouer aux échecs. Et là maintenant, eh bien, il joue à Mario Kart. Et il joue à Mario Kart, évidemment, sans manette. Sans les mains, parce qu'il est paralysé, il est vraiment paralysé de la tête aux pieds, et bien il arrive à jouer à Mario Kart, simplement grâce à cet implant.
Non, c'est dingue. Là aussi, si on est sur la même courbe d'accélération...
Ben on est au tout début.
C'est ça,
le patient zéro.
Presque, ouais, tout à fait. Ouais.
Un patient zéro, en tout cas, patient humain, le premier patient humain connu, on va dire. Impressionnant. Christophe.
Moi, je tempérais. Je pense qu'il y a une très.
C'est très vrai bien. À chaque fois, tu tempères un peu ce sujet-là.
Voilà,
ton honneur.
Moi, je suis cohérent. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont très bons en communication. Le fait de mettre un implant qui va pouvoir, avec les ondes du cerveau, commander une puce qui va commander un exosquelette, ça a déjà été démontré.
Je veux dire, ça fait 15 ans que ça existe.
C'est pas une première mondiale, y compris d'ailleurs en France, avec un laboratoire du CEA et du LETI à Grenoble. Donc ces choses-là existent. Donc maintenant, la question, c'est en quoi on va pouvoir finalement passer à l'échelle et surtout... quelles vont être les utilisations vers lesquelles on va orienter ces outils-là. C'est vrai que ce peut être les meilleurs des outils pour effectivement les sujets
Non mais déjà pour tous les tétraplégiques.
Tétraplégiques, voilà.
C'est incroyable.
Bien sûr.
Oui, comme une nouvelle interface pour compenser le handicap.
Mais
c'est super puissant.
Parce que la différence qu'il y a avec peut-être les autres expérimentations qu'on a eues depuis 15 ans, il n'y a jamais eu de production de masse dans tout ça. Et on peut imaginer que Elon Musk, lui, va pas s'arrêter.
Voilà, passage à l'échelle qui va.
Mais c'est quand même un spécialiste du passage à l'échelle. Alors, Tesla, ça a été un peu compliqué, mais il y est arrivé. SpaceX, il y est arrivé. Et on peut imaginer qu'il a déjà tout son projet d'industrialisation de ces puces-là, si évidemment il a toutes les autorisations. Mais finalement, s'il arrive à redonner de la vie et du plaisir à des personnes aujourd'hui sont totalement enfermées parce qu'ils ne peuvent plus interagir avec leur monde, c'est incroyable. Rien que pour ça...
Il y avait l'exemple aussi d'une femme qui était atteinte de la maladie de Charcot, justement dans d'autres expérimentations que j'ai pu regarder, qui est aussi un drame absolu, et où là, l'outil peut être une façon effectivement de compenser le handicap qui est créé. Donc voilà, que ce soit Neuralink, mais aussi demain, ce que l'AI pourra apporter dans le domaine de la santé, on aura fait un saut quantique dans 10 ans en termes de santé humaine. Après, on met aussi des outils dans les mains de personnes qui peuvent générer des dérives dangereuses.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le domaine du médical. Le médical, c'est un truc normé. Contrairement, on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure, etc.
Il a dû avoir l'autorisation de la FDA pour faire cette opération, cette opération, bien sûr.
Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit un protocole de test qui est aussi médiatisé. Tu parlais tout à l'heure de starification de ce patient zéro. On ne starifie pas un patient. Enfin, moi, je trouve ça...
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, sauf s'il le veut. Et j'ai pas l'impression, quand on voit les vidéos, vous avez regardé les vidéos de ce patient, il a l'air d'être cool, heureux de participer à ce truc-là. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que, en fait, franchement, je suis admiratif de tout ce que fait le CEA, etc. Mais regardons quand même la différence de communication et de marketing derrière tout ça. Le CEA, ça fait des années qu'ils font ces expérimentations. De temps en temps, on a des updates, et puis basta. Là, ce gars-là s'est fait opérer il y a un mois, on a déjà des vidéos qui sont quand même assez impressionnantes, et on se dit que, voilà, Elon Musk prépare déjà le coup d'après. Alors je suis pas pro Elon Musk, hein, mais je me dis qu'il y a une autre manière de vendre en fait cette technologie. Il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire que pourtant c'est un sujet hyper sensible, mais malgré tout, on le voit, c'est ce patient qui, vraiment, avec sa volonté et le plaisir qu'il a à communiquer là-dessus, le fait sur les réseaux sociaux.
Mais c'est une communication qui est complètement maîtrisée de la part des équipes d'Elon Musk.
Bien sûr.
La transparence qu'on veut faire, enfin, on veut faire croire à la transparence, mais elle n'existe pas réellement. Enfin, un protocole médical, vous avez des comités scientifiques, vous avez une communauté scientifique qui vient assesser les progrès d'un médicament.
Là. Il y a toujours eu.
J'ai pas l'impression de voir des pairs s'exprimer énormément sur ces sujets-là. Là, c'est vraiment une communication qui est maîtrisée de A à Z. C'est les vidéos qui sont posté sur Neuralink, sur le Twitter de Neuralink. Donc c'est quelque chose qui est très maîtrisé, dont en fait la transparence n'est pas si importante.
Mais qu'est-ce que tu imagines derrière cette non-transparence ou cette transparence? Qu'est-ce que tu crois que Neuralink pourrait cacher derrière cette vidéo?
J'en sais rien ce qu'ils peuvent cacher derrière, mais on en a déjà discuté. Moi, je suis assez horrifié de voir ce qui peut se passer avec des puces comme Neuralink. Et je pense pas que la visée d'un Elon Musk soit une visée qui soit 100% médicale pour traiter uniquement des patients tétraplégiques. Moi, je vois derrière le transhumanisme qu'il a prêché pendant des années chez PayPal avec son acolyte. Et objectivement, j'aimerais bien voir où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, et je serais horrifié de me dire que, en fait, on a vu ça, qu'on l'avait sous nos yeux, et qu'on s'est pas rendu compte de ce qui se passait réellement.
Ouais. Mais moi, je me mets aussi à la place de toutes les personnes handicapées qui nous écoutent.
C'est vrai.
Et qui rêvent de, peut-être, d'avoir ce type d'implant. Même s'il y a des risques, même si évidemment, les statistiques sont pas, même si la communication d'Elon Musk n'est pas forcément bonne, mais
je me dis bien sûr,
ces gens-là seraient ravis sans doute de pouvoir bénéficier de
ça. Ce que dit Hugo, c'est attention, il y a une expérimentation médicale, il y a des protocoles, il y a des règles, il y a des patients de placebo, des tests, enfin il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'il y a un encadrement et une méthodologie qui est est-ce qu'il y a une publication dans Nature autour de cela, avec une caution scientifique? Enfin, je veux dire, faut pas qu'on oublie aussi cet environnement de caution scientifique qui est nécessaire à s'assurer qu'on n'est pas dans une entreprise purement de communication. Parce que, enfin, je fais pas de procès d'intention, et je pense que c'est super. Mais je dis juste que ça mérite d'être aussi peut-être un peu plus encadré de façon méthodologique.
Ça serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi on va dire les scientifiques, les chercheurs ne réagissent pas et ne communiquent pas en fait sur ces expérimentations de Neuralink. Est-ce que c'est parce que Elon Musk ne sait pas faire, ne sait pas communiquer auprès de ces gens-là, comme il ne savait pas communiquer à l'époque de Tesla envers les constructeurs d'automobiles historiques qui le détestaient? Est-ce qu'il y a aussi ce type de rupture en fait de communication qui...
On est juste dans un schéma de communication qui n'est pas habituel dans le monde médical.
Bien sûr.
Il a raison, Hugo.
Et puis il se sert de sa plateforme qu'il a rachetée pour présenter son innovation.
Ça, c'est un détail. Il le mettrait sur LinkedIn et sur Facebook, tout pareil. C'est ça qui fait aussi que c'est toujours un peu frappant. Donc j'ai l'impression qu'à chaque nouvelle étape, il y a une vidéo qui sort. Très bien. Mais je suis d'accord avec Christophe. De toute façon, ce truc va passer sous les fourches codines de comités scientifiques, etc. Parce que au final, c'est quand même des objets de santé qui vont être produits. Ça, on ne va pas l'acheter chez Walmart, l'implant Neuralink.
Non.
Voilà. Donc, on ne sait pas encore combien il va coûter, d'ailleurs.
J'espère que ce n'est pas le chef de rayon de Walmart qui va te l'insérer dans le cerveau, parce que...
Oui, qui va sortir une...
Avoir une petite formation avant, quand même. Ouais. Je vous le mets tout de suite.
Attention, oui.
Ou vous attendez
avec les AirPods, oui.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais vous n'avez plus besoin d'AirPods, monsieur.
Mais non, c'est ça qui est beau. On vous les offre, monsieur, aujourd'hui, les AirPods. Non, mais sérieusement, on verra comment tout ça évolue. Et c'est vrai que je me mets aussi beaucoup à la place de toutes ces personnes qui nous écoutent peut-être, qui sont immobilisées sur un...
Bien sûr.
Et qui, voilà, projettent d'énormes espoirs avec cette technologie.
Il faut, je l'avais dit la dernière fois, mais il faut saluer le courage de ce patient zéro. Oui. Enfin, je pense une des personnes qui est l'une des plus courageuses aujourd'hui sur Terre. Il y a 7 singes sur les 23 qui ont été testés avec Neuralink qui ont survécu. Le courage qu'il faut pour se lancer dans ce protocole-là en tant qu'individu, en sachant qu'il y a ces risques-là derrière, c'est monstrueux. Et je pense que tu as raison de rappeler qu'il y a quand même un individu derrière. Il faut saluer son courage.
C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il a dû peser le pour et le contre et se dire, de toute façon, voilà, je sais que je serai tétraplégique tout au long de ma vie à 29 ans. Hein. Ouais. Il s'est dit, ben voilà... je tente le coup, le tout pour le tout, finalement. Et pour l'instant, voilà, espérons que ça continue. Il a l'air de se porter à merveille. En tout cas, c'est un sujet, vous avez vu, passionnant.
Il faut
que
ce soit encadré.
Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit encadré. On verra comment tout ça évolue dans les semaines ou les mois qui viennent.